Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Patricia Di Pietro, nous sommes ensemble à l'occasion de la sortie de votre ouvrage, dont le titre est « Papa, fais pas ça ». Et ce livre que vous avez écrit pendant le confinement est né d'une blessure profonde, d'un parcours de vie tumultueux. Et ce parcours de vie, c'est précisément ce témoignage que vous avez voulu mettre sur le papier. Alors, je voudrais que vous nous racontiez, Patricia, un peu la genèse de cet ouvrage.
Alors en fait, bonjour tout d'abord aux auditeurs et merci de me donner l'occasion de parler de mon livre qui pour moi a été un exutoire et il m'a permis de mettre en avant effectivement les blessures que j'avais eues à cause de mon père puisque j'ai vécu un inceste à l'âge de 13 ans. Et comme je suis la maman de Jordi, les gens ne savaient pas ce que j'avais vécu, les traumatismes que j'avais vécu avant. De faire ce livre et avant de me livrer. Alors je veux dire que ce livre, je ne l'ai pas fait toute seule, il a été écrit à quatre mains avec Marilyn Mosquera, qui est une amie de 10 ans, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, nos vies de femmes tout d'abord. Et Marilyn est hypnothérapeute à Caen et elle a su me guider vers la guérison en apportant des clés de compréhension et d'analyse sur tous les traumatismes que j'avais vécu. Ça m'a beaucoup aidée et en fait j'ai sorti tout ce que j'avais au fond de moi, sans le savoir d'ailleurs, avec des moments très difficiles, mais j'ai pu les sortir et j'ai pu, grâce à ça, trouver l'apaisement.
Alors tout ce que vous aviez au fond de vous, c'est cette blessure de l'inceste, cette blessure profonde. Vous nous l'avez dit il y a un instant, vous aviez 13 ans et aujourd'hui vous en avez 60, je peux le dire. Et pendant tout ce temps-là, vous n'avez rien dit. On n'a pas su que la maman de Jordi, dur d'être un bébé, avait eu aussi ce parcours très très douloureux.
J'aurais jamais pu en parler de toute façon à l'époque, hein, c'était pas le sujet. Il a fallu que je prenne sur moi, il a fallu que je me défende avec mes armes à l'époque et j'avais surtout mon fils et il fallait que je veille sur lui, il fallait que je sois à ses côtés, il a fallu que je vive toute cette médiatisation en gardant et en portant avec moi tous ces traumatismes, mais j'étais pas prête déjà à en parler. Il fallait que je le subisse et il fallait que je vive avec, c'est tout moi le plus important à cette époque-là, puisqu'on ne fait pas un tube, ça vous tombe sur le coin de la tête, on peut pas imaginer un jour après avoir vécu ce que j'ai vécu vivre ce qu'on a vécu dans le monde entier, faire un tube mondial et se retrouver avec un enfant de 4 ans à gérer, alors que vous avez eu des difficultés dans votre jeunesse. Oui, c'est vrai qu'on vit avec et on essaie de porter tout ça à bout de bras.
Et comment on fait justement ?
Bah, on fait avec le caractère que l'on a et on fait avec tout l'amour que l'on peut pour avant tout garder en ligne de mire le sujet principal, c'est-à-dire son enfant qui est médiatisé, et ne pas lui faire vivre ce que moi j'ai vécu et ne pas lui imposer des règles d'adulte ou des traumatismes qui auraient pu aujourd'hui le suivre. Et je suis très heureuse que mon fils soit heureux aujourd'hui, qu'il ait une superbe famille et qu'il s'en sorte et qu'il puisse me regarder dans les yeux en me disant « Maman, mais c'est très bien ce que tu as fait ».
Alors, cette blessure, revenons à cette enfance qui a été douloureuse. Cette blessure aujourd'hui, des années plus tard, 50 ans plus tard, est-ce qu'elle est refermée ?
Ah non, 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 on ne referme jamais une telle blessure, elle reste béante. On la vit, on la garde, on fait avec. On fait avec et justement, il y a des outils qui nous permettent de mieux la comprendre, de mieux la cerner et de mieux l'accepter. Aujourd'hui, je vis cette résilience, je vis avec le pardon, je vis avec cette guérison qui fait la femme que je suis et qui m'aide à avancer au quotidien.
Quand on a 13 ans, qu'on a subi un viol de son père comme vous l'avez subi, est-ce qu'on comprend les choses ?
Ah non, pas du tout. Non, non, on les comprend pas et on ne les comprend d'autant pas que les gens qui sont autour de vous ne comprennent pas ou sont dans le déni. Et il faut rappeler quand même que c'était une époque où c'était encore accepté. Je veux dire, dans beaucoup de milieux, l'inceste, bon, dans les années 70, c'était pas non plus, je veux dire, incroyable. Hein,
vous m'avez dit que votre mère, à qui vous en avez parlé, elle-même était dans le déni.
Ma mère était complètement dans le déni et quand je lui ai confié quelques années plus tard ce que j'avais vécu, elle m'a dit « Mais Patricia, mais ton père voulait juste t'apprendre ce que c'était que la sexualité. » Donc c'est vous dire à quel type de femme j'avais affaire. Ma mère était d'une éducation catholique, elle était sicilienne, elle venait d'un monde où les femmes n'ont pas le droit à la parole.
Vous dites, vous écrivez dans l'ouvrage que en niant votre statut entre guillemets de victime, en niant que vous êtes une victime, on a nié que vous puissiez être quelqu'un.
Ah oui, tout à fait, on nous enlève ce droit. Et c'est grâce à Marilyn, d'ailleurs, qui un jour, j'étais en pleurs sur le canapé qui était à côté de vous, et elle me dit, mais Patricia, arrête, tu es une victime, arrête, tu n'as rien fait de mal. Sois bienveillante avec la petite fille qui a vécu tout ça.
Justement, vous avez envie, à travers ce témoignage, de dire à celles qui peuvent, ou ceux d'ailleurs, qui peuvent être victimes de violences familiales, de violences incestueuses, vous avez envie de leur donner des clés, vous avez envie de dire que votre témoignage peut leur servir ?
C'est tout le sujet, en fait, du livre. Je me suis livrée, je me suis mise à nu, sans tabou, mais je l'ai fait aussi pour que certaines personnes puissent libérer la parole. Aujourd'hui, on a les outils pour, moi ça a été une psychothérapie avec Marilyn, ça pourrait être autre chose, mais il faut trouver les outils qui nous correspondent pour pouvoir avancer. On est obligé de vivre avec, donc il faut parler, mais il faut parler. Moi c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce livre, c'est le livre que j'aurais aimé avoir après avoir vécu ce que j'ai vécu à mon père. Je pense que ça aurait été formidable parce que j'aurais peut-être eu des armes que j'ai eu du mal à trouver, que j'ai mis des années à trouver.
Ce père autoritaire, violent, dont vous racontez d'ailleurs le comportement absolument terrible à l'égard de votre frère et à l'égard de votre sœur, sans compter ce qu'il vous a fait, vous avez continué de l'aimer ?
Je crois qu'on arrive à aimer son bourreau parce qu'on est dans le déni justement et on se dit non c'est pas possible, de toute façon il fait ça pour mon bien. Notre cerveau arrive à disjoncter en fait et à nous imposer un rythme qui fait que on accepte, on est dans l'acceptation, on n'est pas victime, hein, on a provoqué quelque chose. Donc en fait oui, effectivement mon père je l'ai aimé comme un enfant aime son père, je l'ai détesté, je l'ai haï. J'ai eu envie de me venger. Voilà, je suis passée par toutes ces phases avant de lui pardonner. Mais c'est un pardon, si vous voulez, qui est quand même assez particulier, puisque je lui pardonne aujourd'hui simplement parce que grâce ou à cause de tout ce que j'ai vécu, je suis la femme que je suis aujourd'hui.
La femme que vous êtes aujourd'hui, c'est une femme bienveillante, femme heureuse, femme qui couve sa petite famille ?
Ah oui, tout à fait, je suis très heureuse. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'en sortir. On n'oublie pas, on a des traces, on a mal, on souffre encore. Il y a des fois où je souffre toute seule, il y a des fois où la solitude me pèse. Mais je suis entourée, j'ai une famille qui m'aime. Je suis très heureuse de tout ce qui vit autour de moi. Voilà, oui, je suis reconnaissante d'être...
Est-ce que écrire, en revenant sur ces années noires, ces années terribles où vous avez vécu ce traumatisme d'une violence inouïe, vous replongez dans cette histoire, vous a fait du mal en même temps qu'elle vous faisait du bien ?
Ah, elle m'a fait énormément de mal. C'est très dur, c'est très très dur de sortir des mots, c'est très dur de s'entendre parler, de s'entendre dire. Quand j'étais avec Marilyn, je m'entendais dire... et reproduire les scènes, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais comment je peux sortir ça? Comment je peux le dire? Ben oui, ça sort tout seul. Parce que les mots se bousculaient, en fait, et j'avais besoin de les faire sortir.
Les images que vous aviez à 13 ans, vous les avez encore au fond de vous?
Oh oui, oui, oui. Elles sont là, mais elles déteignent.
C'est-à-dire?
Ben, elles commencent à jaunir.
Et vous dites ça avec un grand sourire?
Oui, parce que c'est derrière moi.
c'est vraiment derrière vous, c'est-à-dire que on vous a connu, vous étiez animatrice de radio avec en portant le nom de votre père. Aujourd'hui, Patricia, qui était Patricia Clergé, je peux le dire, aujourd'hui, vous ne voulez plus jamais qu'on vous appelle Patricia Clergé.
Je n'ai plus envie qu'on m'appelle Patricia Clergé, je ne renie rien, mais je ne voulais pas, en tout cas, avec tout ce que j'ai raconté dans ce livre, signer Patricia Clergé, c'était pas possible pour moi, voyez, c'était pas possible. C'était de le voir, de voir ce titre, Papa fait pas ça, et de signer Patricia Clergé, c'était pas possible.
Podcast by Tendance Ouest.
Ce livre aujourd'hui, quelle idée vous en faites? Est-ce que il va voyager? Est-ce que vous voulez qu'il trouve beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices? Est-ce que vous comptez aussi vous en servir pour témoigner de façon orale, si j'ose dire, auprès des gens et en racontant quelle a été votre vie?
Ah oui, je crois que c'est le but ultime. Ce que je voudrais, c'est qu'il rencontre au moins une personne. Une personne à qui ça va faire du bien et à qui ça va apporter des clés. Avec Marilyn, c'est notre souhait, en tout cas. Oui, effectivement, si mon histoire, au travers de la petite notoriété que j'ai eue à un moment de ma vie, si cette notoriété, je peux la mettre à la disposition d'enfants dans des écoles, si je peux aller témoigner, si je peux apporter cette parole, oui, je pense que c'est, pour moi, ce serait vraiment très intéressant d'échanger.
Alors, vous évoquez dans le livre, non seulement votre enfance, mais votre parcours de vie de maman avec Jordi. Jordi avait 4 ans, il est devenu une célébrité planétaire avec cette chanson dont vous êtes l'auteur, Dur dur d'être un bébé. Au fond, vous êtes installé près de Tilly-sur-Seul, je peux le dire, dans le Calvados, et peu de gens savent que vous êtes celle qui a fait naître Dur dur d'être un bébé.
Oui, effectivement. On m'a toujours associée à Jordi, on a toujours pensé que je n'étais que la maman de Jordi, mais beaucoup de personnes ne savent pas que c'est moi qui ai écrit la chanson, en fait, oui.
Alors, il y a aussi beaucoup de gens, vous l'avez dit, je crois que vous l'écrivez, qui vous ont reproché d'être finalement trop près de Jordi et de profiter de cet enfant de 4 ans pour gagner beaucoup d'argent.
Je comprends, c'est troublant, d'autant que Jordi a été le premier jeune chanteur. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a des parents qui mettent en scène des enfants, il y a Voice Kids, aujourd'hui.
Et quel regard d'ailleurs vous portez là-dessus?
Oh, mais un regard bienveillant. Je trouve qu'il y a des enfants qui sont formidables et qui ont un talent incroyable. Non, je suis très admirative quand je les vois arriver devant le micro et chanter. C'est fabuleux. Nous, on était en 1980. C'était le premier bébé chanteur, il avait 4 ans. Je comprends que ça puisse heurter, je comprends que les gens aient pu penser que je profitais de mon enfant et de sa notoriété, alors que j'étais l'auteur de la chanson et alors que j'avais vécu tout ce que j'avais vécu avant.
Ça a été une revanche sur la vie, au fond, le succès de Jordi, sur votre propre vie?
Oh non, non, ça n'a pas été une revanche. Je l'ai vécu, je l'ai traversé, je vous le dis, comme on traverse quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'ai rien cherché, le tube est arrivé comme ça, ça nous est tombé dessus. J'ai vécu avec, j'ai essayé de faire en sorte que mon fils n'en souffre pas. Mon couple, malheureusement, a cédé. À céder à cause du succès, à cause de l'argent, à cause de la notoriété, à cause des médias, à cause de beaucoup de choses. Mais non, moi, j'ai essayé de garder le cap. Mon cap, c'était mon fils. Et j'étais j'avais tellement été traumatisée, j'avais tellement eu de mal à vivre ce que j'ai vécu quand j'étais petite, que je ne voulais absolument pas que mon fils ait des séquelles. Et j'avais un vœu, c'est qu'à 20 ans, mon fils me regarde dans les yeux et me dise « Maman, c'est bien ce que tu as fait. » Je t'en veux pas du tout, bravo. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui dans le regard de Jordi, et c'est ce que j'ai quand il me serre dans mes bras, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important.
Alors, vous lui avez confié le livre, je ne sais pas s'il l'a lu, je ne sais pas ce qu'il vous en a dit, ce qu'il en a pensé, est-ce qu'il vous a parlé de ce livre, de cette vie que vous racontez, à la fois de votre enfance, de votre propre père, de votre propre mère, de votre frère, de votre sœur, et puis de ce parcours tumultueux avec lui?
Alors, il m'a donné l'autorisation de faire ce livre. C'est l'autorisation que j'ai demandé aux trois personnes les plus importantes de ma vie. C'est mon mari, mon fils Laurie et Jordi, à mon frère, évidemment, puisque voilà, c'est très important, à mes nièces. Et quand j'ai eu le feu vert de ces personnes-là, je me suis autorisée à livrer tout ce que j'ai livré, en toute honnêteté, en toute simplicité, avec mes mots, et en étant le plus fluide possible pour que ce soit, si vous voulez, accessible à tous. Voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, ce que Jordi pense, je crois qu'il faudra que vous lui demandiez.
Jordi, maintenant, il est, si j'ose dire, rangé du show business. Il vit sa vie avec sa famille, son épouse et ses deux enfants. Vous êtes heureux de ce qu'il est devenu ?
Ah oui, tout à fait. C'est un homme fabuleux et je suis vraiment très, très, très heureuse de ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Votre papa est décédé, votre maman également. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ?
Que je suis orpheline déjà, que je me rends compte qu'ils m'ont laissé un héritage qui était très, très, très dur et lourd à porter, que je ne leur en veux pas. Ils ont eu des traumatismes également. Mon père a vécu la guerre, il s'est enrôlé.
Je rappelle que vous êtes rapatrié d'Algérie, hein. Vous avez eu les deux premières années de votre vie en Algérie et que la guerre d'Algérie a beaucoup compté aussi dans l'esprit de votre papa, c'est ça?
Exactement. Et là, vous voyez, ce sont les dégâts collatéraux, en fait. C'est ce qu'on appelle, ça comme ça. En fait, mon père est arrivé avec des traumatismes, avec des violences, avec des tortures qu'il a vécues, qu'il a fait subir. Et il n'a pas pu s'en défaire. Et malheureusement, nous, on a vécu avec un homme qui était traumatisé aussi.
Votre frère, au moment du décès de votre papa, vous a confié que votre père souhaitait, avant sa mort, vous écrire une lettre pour vous demander pardon. Cette lettre, elle n'a jamais été écrite, au fond. Est-ce que vous l'auriez ouverte si elle vous avait été envoyée? Est-ce que vous l'auriez lue et qu'est-ce que ça vous aurait fait?
Alors déjà, ça m'aurait apaisé, je pense. J'aurais aimé avoir une conversation avec lui, mais je sais qu'il était resté sur ses positions et que de toute façon, il pensait, même jusqu'au dernier jour, qu'il ne m'avait pas fait de mal. Donc en fait, si vous voulez, je savais que je n'aurais pas eu la réponse que je souhaitais, mais j'aurais voulu qu'il lise le livre parce que j'aurais voulu qu'il comprenne ce que moi j'ai vécu et le mal qu'il a fait. Voilà, c'est surtout ça.
Votre frère et votre sœur ont vécu des violences. Ce qui vous est arrivé, comment ils ont vécu cela, et puisque j'imagine que vous leur en avez parlé?
Oui, on a vécu ça en intimité, on a beaucoup parlé les uns et les autres. Moi, je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans. Mon frère avait 3 ans de moins, ma sœur avait 2 ans de moins. Moi, j'ai fui parce que je ne pouvais pas faire autrement pour ma vie. Et je les ai laissés avec mon père. Et j'ai retrouvé mon frère là cet été. On en a longuement discuté. Je vous dirai pas tout ce que l'on a dit parce que c'est vraiment intime et ça lui appartient. Mais il a vécu des choses très difficiles aussi. Et je pense que ça nous a fait du bien de nous retrouver et d'en parler. Il ne lira pas le livre, je pense qu'il ne peut pas. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas le lire, mais qu'il comprenait que j'ai pu le faire.
Les liens du sang que vous avez avec votre frère, avec votre sœur, c'est des liens évidemment intimes, mais c'est des liens qui sont marqués par la souffrance, par la douleur, par la violence.
Oui, il est marqué par la douleur, par la souffrance. Il est marqué par les marques de cigarettes que l'on a encore sur notre corps. Il est marqué par certaines scènes que l'on a en tête tous les trois. Il est marqué par le fait qu'on ait devant nous l'image de notre mère prête à sauter d'un balcon parce que mon père a décidé de la jeter du balcon. On a tout ça en nous et on essaie de garder une pudeur. On essaie de pas trop s'épancher sur notre passé pour ne pas en souffrir et on essaie d'avancer tout simplement en se portant les uns les autres.
Il y a un élément, une dimension spirituelle que vous évoquez dans le livre sur la foi. Est-ce que cela vous a aidé à supporter tout ça? Je sais qu'il vous est arrivé d'entrer dans des églises pour trouver un peu de repos, d'apaisement. Est-ce que ça aussi, ça a compté dans votre démarche et dans votre parcours?
Oui, parce que ça va au-delà de l'humain. Si vous voulez, moi, il a fallu que je me réconcilie avec les êtres humains dans le sens où j'ai vu ce que c'était qu'un père violent et j'ai vu ce que c'était aussi l'être humain qui vous côtoie parce que vous êtes célèbre, parce que vous avez de l'argent, parce que on parle de vous dans les médias et qui du jour au lendemain vous laisse seul et vous vous retrouvez encore une fois face à vous-même, face à vous à vos problématiques et vous vous dites mais comment je vais m'en sortir? Eh bien moi, j'allais dans les églises, je réfléchissais, je m'asseyais, je priais et j'essayais de trouver, oui, un apaisement, parce que j'avais besoin d'apaisement.
Vous portez une croix autour du cou, c'est un signe ?
Oui, j'aime les croix. Celle-ci m'a été offerte par Laurie à mon anniversaire pour mes 62
votre fils,
ans.
Hein.
Mon fils Laurie, ouais. Pour mes 62 ans. Il sait que j'aime ça. Il sait que voilà, ça me protège. Et voilà, je la garde et je l'ai toujours autour de moi, autour de mon cou.
Votre vie, ça a été justement un chemin de croix ?
Bonne question. Oui, c'est pas mon fils qui a été un chemin de croix.
Votre vie ?
Mais ma vie a été un chemin de croix, oui.
Et aujourd'hui, le livre vient de sortir. Je crois que c'est le premier entretien que vous accordez pour les besoins de la parution de ce livre. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous souhaite ?
Tout le bonheur du monde.
C'est une belle chanson, ça, vous savez ?
Oui, tout à fait.
Alors, à propos de chansons, chaque chapitre de votre ouvrage est rythmé, si j'ose dire, par des paroles de chansons. Quelle est celle que vous préférez de toutes les chansons que vous avez pu écouter ? Je rappelle que vous étiez aussi animatrice de radio, donc vous avez beaucoup passé de disques à l'antenne. Vous avez été chanteuse, vous avez fait partie d'un groupe. Quand vous pensez à toutes ces chansons qui ont rythmé votre vie, qui rythment votre vie aujourd'hui, quelle est celle qui a votre préférence ?
Et c'est justement ma révérence de Véronique Sanson qui dit « Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi, quand les gens qui m'aimaient auront disparu loin de moi, je leur tire ma révérence. »
Il y a aussi Édith Piaf que vous citez. « Je ne regrette rien », c'est ça ?
Absolument, je ne regrette rien. Je ne regrette rien, tout va bien. Mes enfants vont bien, ma vie est belle. Non, je ne regrette rien.
Merci Patricia.
Merci beaucoup Philippe.
Podcast by Tendance Ouest.